Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, j'ai deux garçons dans le studio. Et le troisième, bien sûr, à la technique, évidemment. L'incontournable Nicolas. Donc, aujourd'hui, on a notre chroniqueur Hermès Colléguin. Bonjour Hermès.
Bonjour.
Parce qu'avec toi, on va parler art de rue. Tu connais ce que c'est le...
Ah, pas du tout.
Ah,
bah
oui,
aujourd'hui.
Mais parce que notre invité, il va nous en parler, puis il va nous raconter toute une histoire. Dorian Verdier-Gand, bonjour Dorian.
Bonjour Arlette, bonjour Hermès.
Bonjour.
Tu étais déjà venu dans cette émission pour nous parler de comment tu avais créé ce qu'on va appeler ta première galerie. En tout cas, un premier endroit qui te fascinait parce que pour ton respect, ton amour des artistes. Et puis là, il y a autre chose qui s'en vient, qui s'appelle Seconde Nature.
Mais tu vas
nous expliquer ce qu'il en est, parce que c'est toute une histoire, c'est du recyclage artistique, et avec un lieu bien précis. Ça vous paraît un peu difficile à comprendre ce que je suis en train de dire? Bah, c'est lui qui va en parler bien mieux que moi. Pour l'instant, on part en musique avec Antoine Ellie qui nous chante La Rose et l'Armure.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose, quand les regards l'éclaboussaient, elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête puis m'embrasse. Ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
Alors Dorian Verdier-Gand, pour Hermès et puis pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'étaient pas là la première fois que j'ai eu le plaisir de t'inviter, j'aimerais que tu nous racontes ton aventure, comment ça a commencé, toi, jeune Français qui nous vient de l'autre côté de l'eau et qui est arrivé ici.
Bah, je pense que c'est ça, c'est le petit choc culturel de quand tu arrives. Moi, je suis arrivé en fin juin et le 1er juillet, j'étais confronté à tous les détritus que tu vois dans la rue. Soit les meubles, les vêtements, tous les objets,
oui,
en fait,
tout ce qu'on laisse
encore.
Ouais.
Et j'étais comme moi, mais quel trésor! Qu'est-ce que je suis chanceux de pouvoir meubler mon appartement sans devoir aller jusqu'au IKEA, quoi.
C'est dingue.
Puis au pied de ces montagnes de poubelles qui devraient pas être des poubelles, Il y avait des murales, puis c'était la première fois que je voyais de l'art public, de l'art urbain, et je trouvais ça hyper mystérieux. Je me disais, pourquoi il y a des murales? Est-ce que les artistes ont décidé de le faire par eux-mêmes? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que ces artistes gagnent bien leur vie? Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce que c'est des rebelles? Donc j'ai commencé à leur écrire des messages.
Peut-être un peu de tout ça.
C'est un mélange en fait. C'est encore toujours mystérieux après 5 ans. Et du coup, l'idée, la vision, c'était comme de faire tomber les murales sur les montagnes d'objets qui se trouvaient dehors et de leur donner une deuxième vie à travers le talent de ces artistes. En fait, je me suis rendu compte que les artistes vivants, peu importe qui ils sont, c'est difficile de faire un salaire régulier en vendant ces œuvres d'art.
Comme tout artiste qui se respecte, il n'y en a pas beaucoup qui vivent de leur art.
C'est ça.
Une partie, heureusement, mais.
Être créatif et à la fois organisé,
Oui.
assez organisé pour pouvoir s'occuper de toute la gestion de ses productions. Puis souvent, l'esprit d'artiste, c'est souvent un petit peu dispatché, puis vagabond. Donc, il faut être des vrais entrepreneurs aussi en tant qu'artiste. Puis se structurer et créer un collectif, ça peut aider à faire en sorte que tout le monde partage ses forces.
Oui.
Et c'est ça qu'on a essayé de faire en
Alors
faisant
quand
une.
tu dis on, si tu le on.
Si tu le on. Au tout début, il y a 4 ans, j'ai commencé ça assez seul. Puis on s'est retrouvé à faire un système coopératif avec les artistes. Chacun était impliqué du mieux qu'il pouvait, sauf que les tâches n'étaient pas bien réparties et tout le monde avait les mêmes droits sans avoir la même implication. Alors ça posait quelques problèmes. Donc finalement, on a décidé de s'organiser sous forme d'organisme à but non lucratif, qu'on a appelé l'original.org, qui ouvre son espace de recyclage au 44-55 rue Saint-Denis, qui est du coup le deuxième espace de l'original. Et maintenant, il y a des membres qui sont plus actifs, qui ont des responsabilités qui sont clairement
Alors,
définies.
avant qu'on parle du 2,
Ouais.
dans le 1, l'original, il fallait avoir une vraie passion. Je veux le souligner parce que quand on en avait parlé, c'est exactement ce que tu avais dégagé à ce moment-là. C'est qu'il fallait avoir une vraie passion et un vrai amour pour les artistes pour faire ça en te lançant dans le vide sans savoir ce que ça allait devenir.
C'est
Sans avoir
sûr.
de vraie assurance derrière que tout fonctionnerait
C'est
bien.
du courage parce que effectivement, c'est de se lancer dans l'inconnu complet. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans tout ça?
Vous êtes adorable. Bah, c'est du courage. Je vous dirais que c'est. J'ai pas vécu ça comme du courage. J'ai vraiment vécu ça comme de la curiosité.
Non.
Puis c'est vraiment étape par étape. J'ai jamais rêvé d'avoir une galerie. J'ai jamais rêvé d'avoir deux espaces qui étaient alloués à des artistes montréalais pour recycler des objets. Au début, on a commencé à récupérer ce qu'on trouvait dehors, les vêtements, les amener dans des endroits, donc soit des friperies, soit des bars, puis à donner rendez-vous aux artistes, puis on les recyclait. Est-ce que ça prend du courage? Pas vraiment, hein, récupérer un truc qu'on trouve dans la rue pour le mettre chez soi et puis après le transporter quelque
Non,
part.
pas du courage,
Mais
mais une foi, de la foi par
c'est
contre.
ça.
Il faut y croire.
C'est de l'amour. C'est que de l'amour.
Oui.
C'est de l'amour pour les objets. Moi, j'adore faire les brocantes avec mon papa et ma maman quand je suis petit. C'est eux qui m'ont donné l'amour des vieux objets qui sont bien plus résistants et du
Ah
coup bien
oui.
plus écologiques s'ils durent plus longtemps dans le temps.
Dans le temps.
Et du coup, je me suis dit, waouh, moi, j'ai pas ce talent-là que de peindre. Et du coup, j'étais vraiment émerveillé, et je le suis encore par les artistes qui ont ça en eux. Et en même temps, ça a commencé tout petit à petit. Alors, des ateliers de recyclage, après, on avait plein d'œuvres, il fallait les vendre quelque part, du coup, un lieu, du coup, une coopérative. Puis finalement, on s'adapte, et puis à chaque étape, on apprend. Et finalement, ça a donné ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu pas comme les autres.
Et d'en ouvrir un deuxième alors que dans l'idée c'était déjà waouh le premier. Il fallait le faire fonctionner. Est-ce que je fais attendre un petit peu les auditrices et les auditeurs exprès parce qu'on va faire une pause musicale puis on en parlera mieux après. Est-ce que quand l'original a vu le jour, est-ce que les gens sont venus tout de suite? Est-ce que la curiosité a été tout de suite au rendez-vous?
Je vais être très honnête, oui. Les gens étaient profondément bienveillants vis-à-vis du mouvement, que ce
Ah, c'est
soit
bien
les
ça.
artistes, le
Ok.
public. C'est quelque chose que je reconnais au Québec, puis il y a une autre différence culturelle. Quand tu as un projet ici, les gens te soutiennent. Ça m'a énormément touché et ça m'a donné justement peut-être le courage de continuer. Mais surtout, t'es jamais tout seul. Tu commences tout seul, puis peut-être que les équipes, elles se refont, il y a du renouvellement tout le temps. Aujourd'hui, je suis super fier de mon équipe. J'ai des gens hyper investis qui sont autant passionnés, si ce n'est plus passionnés que moi, pour pousser le projet. Et quand on est fédéré à travers des valeurs, on n'est pas fédéré par un lieu. Et les valeurs, elles peuvent s'étendre plus facilement.
Oui.
Du coup, si on veut avoir l'impact maximum dans le développement durable, c'est-à-dire écologique, en recyclant des objets, social, en faisant de l'art qui est engagé, pas de l'art investissement, de l'art qui parle, qui porte un message, ou économique, en faisant en sorte que nos artistes vivants puissent gagner leur vie, bah, ça n'a pas de limite. Il n'y a pas de, fin. Une galerie, ce n'est pas une fin. Deuxième espace, ce n'est pas une fin non plus. L'idée, c'est d'aider un maximum d'artistes et de recycler un maximum d'objets.
Voilà, et puis de te faire plaisir au milieu de ça, parce que tu as dû faire aussi des découvertes. On en parlera un petit peu plus tard, mais tu as dû aussi faire des découvertes, parce que quand on vient, même si tu t'y intéressais déjà, et puis que tu es toi-même amateur de tableaux, de choses, de plein de choses, il y a quand même des découvertes qu'on fait. Il y a des gens qui nous interpellent, et quand on voit ce qu'ils font artistiquement parlant, on dit « Waouh, j'avais pas pensé à ça ».
Exact. C'est leur approche qui est tout le temps différente, etc. etc. Mais, all right. Mais en ton sens, dans ce cas-là, est-ce que vous définirez votre art comme de l'art écologique plutôt ?
De l'art écologique, tu lui as demandé ?
Oui.
Attends.
Ok.
Petite pause musicale et comme ça, il a le temps de travailler la réponse.
C'est bon.
Et puis, on revient tout de suite après ça.
Thank you.
Alors, on vient d'entendre Fred Fortin qui chantait Le Mur. Mais là, c'est pas sur un mur qu'ils vont faire leur... Alors, non, attends, pardon. Excuse-moi, Hermès, c'était ta question d'abord. Alors, tu la redonnes ?
Pour la reposer, alors, est-ce que vous considérez votre art comme de l'art écologique ?
Alors, j'ai bien eu le temps de réfléchir à cette question. Et la réponse est oui et pas que.
Ok.
Je pense que c'est de l'art engagé.
Ok.
Et donc, dans la forme, faire de l'art engagé, c'est faire de l'art avec des produits recyclés. Mais ça va plus loin, parce que l'art engagé, c'est aussi engagé dans le fond. Donc, dans le fond, c'est avoir un message qui est engagé. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de réussir, et c'est un challenge, puis on n'y arrive pas tout le temps, mais okay. On essaye de pousser dans cette direction-là, les deux. Donc, de faire de l'art qui est à la fois écologique, en recyclant des objets tels qu'ils soient. Donc, on peut peindre sur... les sacs des auditeurs, les chaussures des auditeurs, les meubles des auditeurs, n'importe quoi que tu peux faire peindre, okay. Se peint. Il y a des peintures pour tout, pour le cuir, pour le bois, pour le textile, mais aussi essayer d'avoir quelque chose qui soit représente une énergie positive, comme ton sac, Arlette, avec des mots qui te font du bien,
ah,
que
oui,
tu
oui.
aimes lire, que tu aimes trouver, et puis à chaque fois que tu prends ton sac, tu es comme, c'est mon sac à moi,
ah, oui.
Il n'y en a qu'un comme ça.
Il n'y en a qu'un comme ça, oui.
Il te fait du bien. Donc dans ce sens-là, il est engagé.
Okay.
Et en même temps, c'est un sac que tu avais avant.
Oui.
T'as pas eu à racheter un sac.
Non.
Donc t'as pas eu à jeter celui-là qui s'est décomposé et puis voilà. Qui a quand même pollué et puis en
il
faire fabriquer un autre.
Vie.
C'est ça.
Exactement.
Ok. Mais à ce moment-là, la question qui me vient tout de suite, c'est de savoir est-ce que dans le processus de création de vos différentes œuvres, est-ce que la forme suit le fond ou l'inverse à ce moment-là?
Ouais, ça c'est une bonne question. Je dirais que le processus créatif est différent pour chaque artiste. Moi, par exemple, j'écris un poème, qui est un poème engagé, sur lequel je vais baser ma peinture.
Ok.
On peut faire l'inverse. On peut peindre et après interpréter et du coup, on va dire, démocratiser le message de l'art à travers un texte.
Ok.
Souvent, c'est comme ça que c'est fait.
Alright.
C'est vrai.
Ok, pourquoi pas.
C'est vrai. Et puis, on se raconte tous une histoire parce qu'après tout... chacun d'entre nous, connaisseur ou pas connaisseur, on ressent quelque chose. Il y a comme une vibration. Ça fait un petit cronche-cronche là dans l'estomac. Et puis, tu as une réaction face à une peinture, face à une œuvre, face à quelque chose. Et toi, tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Moi, il m'est arrivé de regarder quelque chose, de regarder un tableau et de raconter une histoire. Une histoire que celui qui est à côté de moi ne voyait pas. Mais moi, c'était l'histoire que je voyais dans ce tableau.
C'est ça, et puis c'est le but aussi. Et puis c'est un peu la difficulté à faire de l'art engagé. C'est parce que quand tu fais de l'art engagé, tu pousses l'histoire de l'artiste. Alors qu'en fait, il y a plein d'interprétations à une toile. Et peut-être que la personne va préférer l'histoire qu'elle-même se raconte en voyant l'image plutôt que l'histoire de l'artiste. Après, pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. De savoir quoi le message, s'il y a un message, puis s'il y a de plus cognitif que l'émotion va t'amener à réfléchir sur un sujet sur lequel tu ne serais pas forcément posé la question, mais peut-être que la toile elle-même va t'aider à te poser des questions que toi-même tu t'étais posé et à y répondre ou à te donner une forme de réponse.
Ok, à ce moment-là, est-ce que le street art est la meilleure forme pour diffuser ou partager ces messages-là?
Selon moi, oui.
Parce que
c'est une des formes, en tout cas.
C'est ça, c'est une des formes. Je pose la question parce que les avis sont partagés de toute façon, et les auditeurs le sauront. Certains le voient comme... il y a un côté légal au street art, mais il y a aussi un côté assez illégal. Alors, comment est-ce que le public, ou la réaction du public...
C'est Monkey qui peut être bien, des fois.
C'est ça.
Pour moi, c'est Monkey qui l'a dit, alors je vais le citer, mais je suis très d'accord avec lui. Illégal n'est pas un problème quand ce n'est pas immoral. Si je fais une murale et que ma murale, elle génère plus d'énergie positive, c'est-à-dire que les gens, quand ils passent, ils vont réfléchir, ils vont prendre le temps de l'admirer et ça va ensoleiller leur journée, même si ce que je fais est illégal, ce n'est pas immoral. Peut-être même bien au contraire.
Okay.
Pour
ça
répondre
donne un sourire aussi.
C'est ça, ça donne un sourire, puis ça donne un peu de joie. Alors, est-ce que faire quelque chose d'illégal qui donne de la gaieté dans ton cœur, c'est mauvais? Je ne pense pas.
Non.
Pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Ma réponse personnelle est oui. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Donc les premiers street artists qui ont commencé à faire ça à Montréal sont encore vivants et tu peux encore les soutenir en soit leur commandant des murales, soit en leur achetant des œuvres à l'original.
Impressionnant, ok.
La deuxième chose, c'est que ce sont les premiers qui ont démocratisé l'art, les arts visuels. Avant, si tu voulais voir une peinture, il fallait que tu te rendes dans un musée. Il faut que tu aies un certain background culturel, slash social, économique, pour pouvoir t'y rendre, pour pouvoir avoir de l'intérêt par rapport à ça, ou que toi-même ou que ta famille en général possède des tableaux, ce qui est encore un coût supplémentaire, un investissement supplémentaire, une classe sociale encore au-dessus. Et depuis le street art qui a commencé dans les années, je vous dirais, qui s'est démocratisé dans les années 80, mais qui a commencé dans les années 70, c'est les premiers qui ont rendu public les arts visuels et qui ont permis à n'importe qui se balade dans la rue d'être confronté à l'art. Donc pour moi, dans ce sens, c'est engagé.
Mais à ce moment-là...
Ça, c'est magique.
C'est ça, mais transposer finalement le street art dans des galeries ou dans des lieux précis, est-ce que ce n'est pas dénaturer la nature du street art finalement ?
C'est une très bonne question.
Parce que la question qui viendrait juste avec, c'est comment est-ce que tu définirais ou quelle serait la définition pour une personne lambda du street art ?
C'est une excellente question. Le street art, surtout, qui s'est beaucoup enlargi. C'est parti avec le graffiti, qui était un geste politique, qui était un geste de vandalisme, qui allait contre la gentrification de certains quartiers. Puis maintenant, on arrive dans des fresques murales qui vont jusqu'à l'abstrait et l'extrême de l'art contemporain. Qu'est-ce qui définit le street art ? Pour moi, c'est l'artiste, c'est l'émetteur, c'est la cause. Si la personne fait des murales, si la personne améliore les espaces publics, c'est un street artiste. Si la personne est un street artiste et peint sur un tableau, c'est une toile d'un street artiste. Donc, c'est un morceau de street art. Selon moi, ce n'est pas le dénaturer. Pourquoi ? Parce que c'est l'encourager. C'est même l'inverse. Pourquoi c'est l'encourager ? Parce qu'un artiste qui a un peu d'argent, il peut se payer des canettes, il peut se payer de la peinture, et du coup, il peut faire plus de murales. Mais s'il n'est pas payé pour faire des murales illégales, comment il va financer ses canettes ? Sachant que c'est une des personnes les plus pauvres sur l'échelle sociale. En contraire, s'il a une place pour pouvoir vendre des toiles, sachant qu'il y a peu de toiles de street artistes et que la communauté de street artistes à Montréal, c'est environ une cinquantaine, centaine de personnes, peut-être un peu plus, tu vois, là je parle des muralistes surtout, mais si tu l'étends à tous les graffeurs, c'est plus, mais ça reste assez restreint. Ces gens-là, c'est cool à encourager, et puis je pense que leur acheter une toile ou leur demander de peindre sur un objet, quel qu'il soit, c'est les encourager.
Ah oui, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, Nicolas, tu me disais hors antenne que toi, tu habitais dans une rue où tu en avais plein de... sur tes murs autour.
Oui, exactement. Moi, je suis juste à côté de la rue Masson, dans le Vieux-Rosemont, coin Saint-Michel. Et je dirais que pas mal sur tous les côtés de bâtiments où est-ce que ça mène à une ruelle.
Oui.
Sur chaque côté de bâtiment, il y a une nouvelle murale. Et c'est toutes des grands... Autant quand même assez grand,
Qui part
du sol jusqu'en haut du bâtiment.
Impressionnante.
Jusqu'à...
Je suis tout le temps
impressionnant. Des fois, c'est aussi petit qu'il y en a un où est-ce que c'est trois personnes habillées de la même façon, mais que leur visage est complètement différent. Celui-là, il prend pas beaucoup de place. Tandis qu'une autre, c'est une femme avec des fleurs et un renard qui prend tout le bâtiment au complet. Donc, c'est à travers la rue Masson. Puis, je pense que c'est une rue assez artistique au niveau des arts, même... Quand je suis arrivé ici à Montréal, le sol complet était peinturé aussi. Il y avait plusieurs affaires. Donc, c'est assez actif au niveau du street.
C'est assez impressionnant, oui, c'est vrai. On fait une petite pause musicale maintenant. Donc, on fait une petite pause musicale avec Yannick Boivin qui nous chante « Hey !» Et on revient tout de suite après.
Faire ça vite, hey, décor.
Voilà, donc, hey, comme il nous chantait si bien, on va revenir avec toi, Dorian, parce que tu as encore plein de choses à nous raconter, puis il faut que va falloir que tu nous racontes, ça va se passer dans la deuxième partie de l'émission, va falloir que tu nous racontes comment s'est passé ce deuxième endroit, ce deuxième lieu, où tu l'as trouvé, comment tu l'as trouvé, et... Comment t'as eu l'idée de l'installer? Parce que pour l'instant, il veut pas nous le dire encore.
Mais savoir mes secrets.
Il veut faire l'annonce
on
en direct.
On veut tout savoir.
Il veut pas nous l'annoncer
vous
immédiatement.
Voir, c'est malade mental. Je pense que c'est un des lieux les plus vivants de Montréal et ça va vraiment marquer l'histoire de Montréal. Et je vous dirais pas ça si c'était pas le cas. Right. Vraiment, c'est extrêmement bien placé. C'est sur plusieurs étages et c'est un endroit où on va voir quelque chose qui n'a jamais été vu à Montréal. Et vous pouvez y aller tout le temps. Ça va être permanent, tous les jours. Et c'est bientôt dans l'émission.
On va en parler dans un instant. Ça veut dire que juste avant qu'on parte pour la pause, est-ce que tu te doutais ou tu avais idée qu'une chose pareille t'arriverait le jour où tu as mis ton pied
à Montréal ici, là ? Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Ben je comprends ça. Donc, on est tous en haleine dans le temps de savoir qui, où. Est-ce que pendant la pause, ça vous dit qu'on fasse des paris ? Ne dis rien à toi, Dorian. Tu fais, mais avec Hermès, on peut faire un pari d'un endroit. Avec Nicolas, on peut faire un pari d'un endroit. Pourquoi pas?
Nicolas a l'air d'hésiter, mais bon.
Mais je connais pas tant mes endroits, mais je vais essayer.
Tu vas essayer d'imaginer un endroit de Montréal dans lequel ça viendrait bien. Viendrait bien fitter.
Okay.
Pourquoi pas? Je vais y réfléchir.
On va y penser.
J'ai comme une petite idée, mais c'est bon. Alors à tout de suite, on se retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Clairière dans la forêt numérique.
Alors, on vient d'entendre Jérôme Minière qui nous chantait Une clairière. On a fait ce qu'on a pu avec Dorian Verdier-Grand, on a essayé de le travailler au corps, mesdames, messieurs, c'est pas facile, pour essayer de savoir. On a émis des idées et toutes nos idées sont pas bonnes. Alors, vas-y.
Ouais, enfin, pas qu'elles sont pas bonnes.
C'est pas celle-ci.
Bah, vous avez essayé de deviner, vous n'avez pas deviné.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cet endroit?
Eh bien, écoutez, vous n'avez pas été assez cliché dans vos propositions. Puisque c'est le français qui s'en va au...
À Mont-Royal ?
Exactement. Exactement.
Mais pas, c'est au-dessus de chez moi, j'étais pas très loin.
Non,
avec Ville-Marie, c'est vrai.
Ville-Marie, c'était juste à côté. Non, Mont-Royal, pourquoi ? Parce que le plateau, c'est un des centres névralgiques, de là où tu peux trouver le plus de murales, que je pense aussi, c'est un des endroits où il y a énormément d'étudiants et d'immigrants, donc il y a énormément de meubles et de vêtements jetés. Et en même temps, c'est un point facilement accessible. On a 30 secondes du métro Mont-Royal.
Oui, c'est
sympa de
Saint-Denis.
Se balader. Saint-Denis-Mont-Royal, exactement.
Yeah.
Au croisement entre Saint-Denis-Mont-Royal, juste à côté du Quai des Brumes. L'adresse exacte, si vous voulez venir nous voir le 3 juin, c'est le 4455 rue Saint-Denis.
Fabuleux. J'étais au Quai des Brumes cette semaine. Donc,
c'est vrai
ouais.
Et tu vois, l'entrée est super belle. On a fait une giga fresque murale sur les escaliers. Ouais. Et en fait, c'est un concept un peu spécial. Est-ce que j'ai le droit d'en dire plus?
Ah, tu peux dire ce que tu veux.
Je peux dire ce que je veux ?
Oui.
Je peux dire des gros mots ?
Si tu veux.
Certains ont dit.
Non.
Si tu veux. Tu veux plus revenir ? T'as raison.
Alors, c'est un lieu sur deux étages. Le premier étage, c'est une galerie assez classique où on peut se poser, prendre un petit cocktail dans une théière. Tous nos cocktails sont dans des théières, c'est le concept. Théière de seconde main, bien évidemment.
Pour qu'on croit qu'on boit du thé.
Ouais, pourquoi pas.
Et ce qui fait de cet endroit un endroit exceptionnel, c'est que c'est une galerie qui est complètement vivante et qui est complètement gérée par les artistes. Donc c'est Nick Baudouin et Normand Giguère qui vont être sur place pour accueillir le public.
Ouais.
Nick, qui est un artiste qui fait de la sculpture-peinture, c'est magnifique ce qu'il fait. Je vous encourage à aller voir sur le site de l'original, l'original.org. Mmh. Et sur l'étage du dessus, il y a un escalier donc, dans la galerie qui vous permet d'y accéder. Il y a 4 ateliers d'artistes, plus un qui est en bas dans le fond, ce qui fait 5 ateliers d'artistes dans lesquels vous pouvez voir les artistes peindre et échanger avec les artistes sur leur technique, sur le message qu'ils essayent de faire passer et voir à quel point créer un tableau prend du temps, le temps de le brainstormer la composition, le temps de créer en soi la peinture. Et c'est fabuleux parce que c'est impossible pour l'instant à Montréal de voir un artiste dans son cocon. Et si l'artiste est absent, eh bien les ateliers resteront ouverts et ce sera comme les galeries privées pour l'artiste. Donc ce sera une petite pièce où tu pourras avoir toutes les
créations. On sera exposé les œuvres, on va dire ça comme ça.
Fâchement
faites. Fâchement faites. Ah, c'est super.
Vraiment.
Et les artistes, alors les artistes que tu as croisés, est-ce que ce sont les mêmes qui sont là, qui étaient dans le premier, ou est-ce que c'en est d'autres ? Est-ce que tu as fait d'autres rencontres ? Est-ce que des gens sont venus te voir maintenant qu'on sait un petit peu le concept que tu fais ? Comment ça se passe aujourd'hui ?
Maintenant, on a la chance d'avoir, après 5 ans, établi une certaine crédibilité. Et ça nous a permis de travailler avec des artistes avec lesquels on n'aurait pas eu la chance de travailler avant, qui sont les plus grands muralistes de Montréal.
Des pointures, quoi.
Des belles pointures. Il y a aussi des artistes émergents qui se mêlent à ça. On est une trentaine d'artistes, quand même. C'est un grand collectif.
Bravo, bravo.
Yeah,
non, mais c'est vraiment une super idée. Hein. C'est quelque chose de génial. Ça fait tellement de bien, là. Vraiment.
Puis ça permet aussi d'associer des artistes qui sont moins connus à des plus grands noms.
Oui.
Puis toutes les œuvres d'art là-bas sont quand même accessibles. Puis le dernier intérêt que personnellement je vois à avoir des ateliers, galeries, on peut échanger avec l'artiste, c'est qu'on peut amener du coup ses objets. On peut amener ses chaises, on peut amener sa table, on peut planifier une rencontre avec l'artiste pour l'amener chez soi, lui faire faire une murale. Et c'est un circuit court directement entre l'artiste et la personne qui est intéressée à donner une seconde vie à son objet. Ça fait des super cadeaux.
Hein. Ah,
tu peux même faire une petite lettre de l'artiste en personne à la personne à qui tu offres l'objet. Et c'est super écologique, c'est super sensé, c'est super social, donc c'est cool.
Mais du coup...
J'y vais, je me l'offre à moi-même.
Bah, du coup, est-ce que chaque atelier est réservé à un artiste ou tout artiste peut s'inscrire ou venir essayer d'utiliser votre matériel?
C'est une excellente question. Pour l'instant, c'est fermé à un artiste parce qu'on essaye quand même d'avoir...
Ils exposent leurs œuvres.
Exactement. Oh, oui. Donc, okay. C'est des ateliers qu'ils louent.
Okay.
Des ateliers qu'ils louent et du coup, bah, ça leur fait leur espace à eux.
Ouais.
Ce qui est cool parce que du coup, bah, ça leur fait leur petite galerie dans une galerie. Et ça leur permet de rencontrer des personnes qui visitent la galerie d'en bas, qui est, cela dit, magnifique. Il y a des moulures au plafond, il y a des lumières de partout, les œuvres en bas sont tout juste majestueuses. Si vous voulez les voir en premier, avant qu'elles soient toutes parties chez messieurs, dames, les collectionneurs qui veulent refaire leur appartement, c'est le 3 juin. Du coup, 4455 rue Saint-Denis. Là-bas, vous allez voir 6 live paintings en simultané. Donc, dans chaque atelier, il y aura l'artiste qui sera en train de peindre. Et devant, on aura Monkey, qui est un des artistes les plus prolifiques, en fait, qui est l'artiste le plus prolifique en termes de nombre de murales réalisées dans sa carrière, qui fera un live painting devant la galerie. Si vous n'êtes pas là le 3, vous pouvez venir le 4. Si vous n'êtes pas là le 4, vous pouvez venir le 5. Il y aura toujours des live paintings en permanence.
Okay.
C'est gratuit. Donc, vous êtes les bienvenus entre 11h et 23h.
Ok. Ouais, je te prends au moins l'invitation, cool. Je serai là le 3.
Ouais, ah oui, yes,
aussi,
trop cool. Trop cool. Oh,
ouais. Avec mes chaussures sous le bras.
C'est vrai que tu veux faire custom tes chaussures.
Ah oui.
T'as choisi l'artiste ou pas encore? T'as regardé
dans le premier, je sais plus son nom, il y avait une vidéo d'un gars qui paraissait complètement fou, mais fou dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Et je m'étais dit, ah, j'aimerais bien le rencontrer.
Ouais.
Mais après, je vais voir, parce que c'est aussi une question de feeling. On passe, on voit les artistes, il y a peut-être quelque chose qui passe, on discute un petit peu, puis moi j'aimerais ça, comme on en avait parlé une première fois aussi, de parler avec un artiste et puis qu'il lui vienne une idée de ce qu'il veut faire sur mes chaussures. Et moi je laisse faire.
C'est la meilleure chose à faire, c'est la meilleure façon.
Je ne donne pas de directive, je veux juste que ce soit l'artiste qui ait...
Cette intuition-là ou cette aspiration-là.
Avec une idée générale, plus une émotion ou un objectif en tête, puis lui va trouver le moyen d'arriver avec ton objectif final.
Non, mais même voir par curiosité, parce que un artiste, c'est quelqu'un qui est d'une sensibilité intense pour tout. Alors, j'aimerais savoir, parce que quand on se rencontre, il y a le côté où on dit « Ah oui, t'es sympathique, ah oui, je t'aime bien », mais il y a des choses qui passent énergétiquement parlant. Et j'y crois très fort. Et j'aimerais ça rentrer, parler à certains, puis voir s'il y en a un qui me dit « Ah ben, tu me donnes envie de faire quelque chose parce que je pense à ça pour toi. Ah, » d'accord, allez, on y va. Voilà.
Ils ont tellement des personnalités différentes, tu vois, quand tu les rencontreras, c'est 5 bonhommes. T'as du plus timide au plus grand fou qui ressemble à Dali, qui va te donner des discours complètement surréalistes. Ils sont tous très, très, très sympas. Puis t'as raison, la rencontre, l'émotion qui passe,
ouais,
l'énergie entre deux êtres humains. Des artistes, c'est quand même des personnalités toujours, pas marginales, mais toujours un petit peu spéciales, un peu hors du commun. Puis c'est
oui, puis qui voit des moments, des choses que toi, tu ne vois pas, emportées dans ta manière de vivre, tu sais, plus régulière. Peut-être que... Alors moi, que quelqu'un me dise, ah ben, je verrais bien ça, même si c'est quelque chose où je vais dire, ah ben là, j'y aurais pas pensé du tout, mais ça fait rien, on le fait. C'est ton ressenti, bah on y va comme ça, voilà.
100%.
C'est ça que j'aimerais, donc c'est pour ça que je vais y être le 3, pour les rencontrer. Et si vous êtes vous aussi auditeur et auditrice et que vous dites, vous nous voyez pour ceux qui ont déjà vu des photos, venez nous dire bonjour et venez nous dire qui vous avez choisi au milieu de tous ces artistes. Pour l'instant, on va faire une petite pause musicale avec Ours qui nous chante Hula Hoop.
est entassé tout en haut. On va le presser comme les tours, tout dans la tête, rien dans les gambettes. Tournez le cerceau, foutons la paix au cerveau. Expliquez-moi, pendant ce temps, j'irai faire du. Toi aussi, tu t'en soucies. Dis, est-ce que toi aussi, tu t'en soucies. Dis, est-ce que toi aussi. Dans le silence, dans le bruit. Hey, Jason.
Nous voici de retour, toujours avec Dorian Verdier-Grand. Alors Dorian, tout à l'heure, Hermès a parlé hors antenne beaucoup, et du coup il m'a inspiré une question. C'est vrai qu'on parlait des peintures, on parlait du prix, ça coûte horriblement cher. Étant donné que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'aide gouvernementale pour ce que tu fais.
Il y en a... Est-ce que je balance à radio ? Non, je pense pas. Non, il y en a, mais nous, on n'en a pas, parce que souvent, c'est des organismes qui sont implantés depuis longtemps. Puis, vous savez, les subventions, il y a des gens qui décident.
Oui.
Et les gens qui décident, souvent, ils décident pour des gens qu'ils connaissent. Moi, j'ai pas mes papiers ici. Je suis étudiant étranger encore. Je suis arrivé récemment, donc je connais personne. Mes parents sont pas dans ce milieu-là. Oui. Mes amis artistes, mes collaborateurs aussi sont assez nouveaux. Et c'est que des passionnés. C'est pas des gens qui font ça depuis des générations. Donc, c'est un combat un peu plus difficile. C'est comme apparaître dans les journaux. Souvent, c'est parce qu'on connaît le journaliste.
C'est vrai.
Bien, merci d'Arlette, d'ailleurs, de m'accueillir. J'ai envoyé 350 communiqués de presse. Puis me voilà ici. Tu es la seule à m'avoir accepté.
Oui, mais moi, je trouve ça formidable. Et puis, c'est tellement... Je trouve ça sensationnel. L'idée, le fait de créer ça, c'est fabuleux. En même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de créer, par exemple, un appel au peuple? Enfin, comme on fait, tu sais, quand tu veux amasser de l'argent avec les gens qui viennent tous voir et puis qui sont capables de mettre un petit peu d'argent pour aider les artistes à acheter leur matériel, parce que quand même, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que c'est pas possible de faire un truc comme ça?
Le crowdfunding?
Oui, voilà, c'est ça. J'osais pas le dire parce que moi et l'anglais, on n'est pas copains.
La loi 101 va m'en vouloir.
Ah, d'accord.
Il y a une petite boîte à dons. Si vous voulez aider l'organisme à se structurer, à acheter des outils, à acheter des peintures, nous avons une petite boîte à dons. Toute contribution est la bienvenue. Si vous voulez soutenir un artiste en lui faisant recycler un objet, vous allez être content, vous allez recycler un objet, c'est cool pour l'objet, c'est cool pour la personne à qui vous allez l'offrir si c'est pas vous, c'est cool pour vous-même, ça va vous faire apprécier l'objet. Même moi, chez moi, j'ai plein de peintures, quand je me lève le matin, c'est la première chose que je regarde, quand je me couche le soir aussi, je m'y perds.
Ça fait du bien.
Ouais, et puis ça te permet aussi de réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, la peinture t'amène à te poser certaines questions. Des fois, je me dis, si elle est là, devant mes yeux, là, maintenant, puis je les switch tout le temps, c'est parce qu'il faut que je réfléchisse à ça. Et du coup, je me perds dans mes pensées. Mais ce n'est pas vraiment des pensées vagabondes. C'est vraiment, ça va générer chez moi des vraies réflexions. Ou alors, si c'est de la peinture plus abstraite, plus florale, ça va juste m'aider à me détendre, puis à mieux dormir. Donc, je pense que ça a une utilité et pour encourager l'artiste, pour l'aider à acheter du matériel, pour faire plus de murales, pour embellir la ville. mais aussi pour soi. Ça fait du bien pour soi d'avoir de l'or.
Parce que il faut savoir quand même, pour vous, si vous vous y intéressez, bah, y a ceux comme les artistes que tu as qui vont le faire directement sur quelque chose qu'ils vont reproduire, sur un sac, sur des chaussures, sur plein d'autres choses. Et puis, il y a les artistes qui peignent, qui prennent le temps de le réfléchir, de l'avoir. Et puis, pour tous ces gens-là, bah, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'argent pour les peintures. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, il faut bien le savoir. Donc, les prix peuvent être parfois en fonction du respect qu'on a pour l'artiste. Et voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Ouais, 100%. 100%, bah, ça reste toujours un budget. Hein. Quand on dit que nous, ce n'est pas très cher, c'est sûr que bon... Faut valoriser le temps qu'on passe à faire la peinture, puis faut le valoriser au minimum, au salaire minimum. Puis même à ça, la réalité de l'artiste en art visuel, c'est que même si je travaille avec les meilleurs muralistes, je pense que dans la galerie, sur les 30 artistes, il y en a peut-être la moitié ou plus qui a un side job à côté pour payer ses factures. Donc la statistique est folle. Hein. Je crois que dans ceux qui ont étudié en art visuel au Québec, il y a 10% qui travaillent dans quelque chose qui a rapport avec les arts visuels, il y a moins de 1% qui gagne sa vie à travers sa peinture. Moins de 1%. Là. C'est fou.
Ouais, c'est fou. Oh, c'est wow. Fou. Alors, faut bien rentrer avec cette idée-là. Respecter ça, parce que c'est tout un travail qu'ils font.
C'est le plus dur du monde, dit l'artiste. Le métier le plus dur du monde.
Et il faut vraiment aimer, avoir la passion chevillée au ventre hein, pour faire tout ça. Donc, bravo.
Bravo.
Pour nous donner cette ouverture, puis aussi pour nous faire voir... À nous qui ne sommes pas spécialement des connaisseurs, ou l'envie de rentrer, juste déjà l'envie de pousser une porte, de savoir que tu peux la pousser sans qu'on vienne vers toi, puis qu'on te raconte des choses que tu ne comprends pas tout le temps. Juste faire la rencontre avec l'artiste gratuitement. Voilà, juste savoir pourquoi, comment, puis après avoir envie, puis après amener quelque chose, et puis faire quelques économies de café, de restaurant, d'autres choses, et puis se payer... ce quelque chose qui nous fait plaisir et qui reste avec nous ou qu'on offre, évidemment.
Tout ça, c'est rendu accessible aussi. On parle des artistes, mais il y a aussi toute la team de bénévoles qui est derrière. On a énormément de bénévoles qui poussent fort, qui donnent de leur temps. Je pense à William, je pense à Audrey, je pense à Amanda, je pense à Nick, je pense à Normand. Puis la liste est longue. Hein. C'est pas que je les oublie, mais tous ceux qui ont investi même 2-3 heures à soutenir l'organisme, à être là en galerie, à cataloguer les œuvres, à les prendre en photo. Vincent qui nous a fait une super vidéo. C'est grâce à ces gens-là qui donnent de l'amour, qui donnent de leur temps. Si on n'a pas d'argent, on a toujours un petit peu de temps à donner. Et ça a permis à l'organisme de se construire et de s'organiser autour des valeurs de recyclage, d'amour des artistes, de passion commune. Puis ça nous crée des super liens aussi entre nous.
Oui, c'est
franchement,
vrai.
On a des c'est moments bien. De super bonne qualité. Puis... Puis c'est chouette, puis se sentir utile pour quelqu'un que tu admires. Moi, les artistes avec lesquels je travaille, je les admire profondément. Il y en a, c'est pour leur technique. Il y en a d'autres, c'est pour leur personnalité. Il y en a, c'est pour l'émotion que me dégagent leurs œuvres. Juste me sentir utile auprès de ces gens-là, pour moi, c'est un don.
Oui, parce que c'est toujours des belles rencontres. Et tu vois quelqu'un, tu parles. Puis toi aussi, de ton côté, t'es reconnu. T'es reconnu dans ce que tu veux faire, dans ton admiration pour eux, dans ce que tu veux leur apporter aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant.
Ouais, 100%. 100%. Ils te reconnaissent.
On redonne l'adresse.
C'est le 4455 rue Saint-Denis. Si vous ne pouvez pas être là le 3 et 4 juin, c'est pas grave. Ça va être ouvert tout le temps. Ça
sent d'Orient, il y est tous les jours.
Moi, je ne sais pas, mais vous rencontrez des copains très sympathiques. Nick, qui est artiste, qui fait de la sculpture sur bois, de la peinture. Un immense talent, mais surtout un immense cœur. Ce gars-là, vraiment, j'ai tellement de respect pour Nick. C'est lui qui a fait toute la galerie, tous les meubles, c'est lui qui les a fait, qu'à partir de matériaux recyclés quasiment. Toutes les réparations, c'est des bénévoles qui ont travaillé de nuit, après leur shift de la journée, jusqu'à parfois 3 heures du matin, à faire des réparations de trous dans le mur avec du plâtre, à faire de la peinture, à faire même des trucs que je ne peux pas dire, parce que c'est quasiment dangereux. Et qu'on fait ça avec juste de l'amour, quoi. Ils n'étaient pas payés une scène, puis ils avaient envie de participer d'aider à la construction d'un projet. Puis même des gens juste qui passaient par là, qu'on rencontrait au NW, qu'on allait à notre pause dîner, qu'on leur disait ce qu'on faisait. Puis des gens qui venaient nous aider pendant 2-3 heures en partageant une bière, et on a passé des moments magnifiques, quoi.
C'est ça, les belles rencontres de la vie, c'est magnifique. Eh ben écoute, tant mieux, on arrive à la fin de cette entrevue. Un dernier petit mot à dire, t'as juste 30 secondes.
Merci, je pense qu'on s'arrête là. Merci à vous de m'avoir invité, merci à ceux qui ont écouté l'émission, merci à tous ceux qui s'impliquent dans le projet, et merci à vous qui allez venir nous voir le 3 et 4 juin au 44 55 Saint-Denis, ou après si vous n'êtes pas là ce week-end malheureusement.
Tu vas pas être là le 3 et le 4 ?
Moi je serai là le 3 et le 4, bien sûr que j'y serai.
J'espère bien.
Bah
j'ai
oui.
J'ai entendu tout, hein ? Nicolas, bah oui, il y a la chanson Nicolas, tu vas y aller aussi ? Nicolas,
allez, allez Nico.
Moi, je suis très occupé pour mes fins de semaine. Faut
Nicolas,
comprendre.
Il peut chanter devant tes œuvres.
Oh yeah, tu fais ça.
Ah oui, oui, oui. Puis il a une super
que j'ai
voix.
Ici, Arlette veut que je chante constamment devant.
Ben exact. Ben j'ai manqué ça. Donc il faudrait que je chante.
Ça peut se réécouter. C'est comme cette émission. Bon alors, on part en musique. Avant de se dire au revoir, on part en musique avec Phil G. Smith qui nous chante Trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Allons-y.
J'étais plus toute là, je pense même que j'avais perdu le nord. J'avançais de reculons en barouettant ce qui me restait de corps. Je t'ai trouvé dans le silence, toi puis tes 300 millions de peurs. Je t'allais te sortir de ta cachette pour mieux pouvoir te briser le cœur. Même si est trop tard, laisse-moi donc te le dire pareil. Même quand je fais trop fort, y'a juste à boire mes deux oreilles. Même si des fois la vie veut pas toujours être belle, laisse-moi donc faire briller ton soleil. Je demande encore ce qui m'a crisser mon camp. Faut croire que de vivre heureux tous les jours dans ma tête, c'est pas évident. Je me demande quand est-ce que tu reviens, puis quand est-ce que je vais revenir de toutes ces tripes soudains qui font rien qu'scraper mon avenir. Même si trop tard, laisse-moi donc te le dire pareil. Même quand je fais trop fort, y'a juste à voir entre mes deux oreilles. Même si des fois la vie veut pas toujours être belle, laisse-moi donc faire briller ton soleil. Laisse-moi donc te le dire pareil. Même quand je fais trop fort, y'a juste ta voix entre mes deux oreilles. Même si des fois la vie veut pas toujours être belle, laisse-moi donc. Même si est trop tard, laisse-moi donc te le dire pareil. Même quand je fais trop fort, y'a juste ta voix entre mes deux oreilles.
Alors voilà, on arrive à la fin de cette entrevue. Je vous signale que mon invité se lève déjà pour partir tellement il a...
De choses à faire.
Tellement il a de choses à faire. Donc ben, on dit merci à Dorian Verdier-Grand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour tout ce que tu fais. Bonne continuation. Bravo. Merci Hermès Collegain de nous avoir tenu compagnie et de t'être intéressé à tout ça. Merci bien sûr Nicolas Wartmann, là on donne son nom en entier. Et puis pour la technique et les chansons. Puis surtout merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain. Bye bye.